Frères et sœurs, chers amis, nous célébrons ce dimanche la fête du Christ roi, une fête, une solennité plus exactement, qui n'est pas nécessairement facile, peut-être à appréhender dans notre culture aujourd'hui. Car parler de roi ou de royauté peut soit nous renvoyer à des pages d'histoire, voire de nostalgie. Cela peut aussi évoquer les chroniques mondaines. Les mots « roi de royauté », « royaume » même, vous le savez bien, ont pris des sens bien variés, jusque d'ailleurs dans le domaine consumériste, où on parlera du roi de l'ameublement, ou encore dans le domaine sportif, où on parlera du roi pelé. Cela signifie cependant que dans notre culture, les mots « roi » ou « royauté » ont gardé quelque chose d'essentiel, qui a à voir avec l'excellence, le pouvoir, la domination, l'autorité. Notre première lecture vient aussi donner un éclairage précieux à cette idée de royaume que nous fêtons aujourd'hui. Cette première lecture est tirée du livre d'Ézéchiel. Le Seigneur parle et annonce qu'il va lui-même s'occuper de son peuple. Il va lui-même veiller sur lui comme un berger sur son troupeau. Dieu va prendre soin désormais des brebis malades et fera paître celles qui sont en bonne santé. Si le Seigneur parle ainsi, c'est que son peuple Israël ne va pas bien. Il est dans la débandade. Il est désuni, divisé, fragilisé parce qu'il a été conduit par de mauvais bergers, en particulier par des rois qui n'étaient pas à la hauteur de leur tâche. Pour cette raison, Israël a été divisé, battu. Le peuple a été vaincu et conduit en déportation à Babylone. Le prophète Ézéchiel annonce donc que Dieu lui-même, qui est le seul vrai roi d'Israël, le seul vrai berger de son peuple, va agir pour le bien de son peuple. Et comment va-t-il agir? De la manière la plus surprenante, la plus inouïe, la plus inattendue, en venant lui-même vivre au milieu des hommes, en envoyant son propre fils qui va se faire l'un d'entre eux. C'est lui, Jésus, le bon berger, qui va venir pour rassembler le troupeau, les brebis d'Israël. C'est lui, le roi Messie, qui va manifester son autorité, sa puissance, mais là encore, d'une manière inattendue, d'une manaine absolument nouvelle. Dieu a annoncé par le prophète Ézéchiel qu'il allait venir lui-même conduire son peuple désemparé. Il va le faire d'une manière inattendue en envoyant son fils, Jésus, le bon berger, le roi Messie. Mais ce règne, ce royaume lui-même, est inattendu, comme je viens de le dire. En effet, au début des Actes des Apôtres, alors que Jésus va rejoindre son Père après sa résurrection, ses apôtres lui demandent d'une manière encore totalement décalée: est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? En d'autres termes, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté terrestre, politique, administrative dans le pays, avant de rejoindre les cieux? Or, si Jésus est bien le berger d'Israël, s'il est vraiment roi, il ne l'est pas à la manière dont le peuple et les apôtres l'attendaient il y a 2000 ans. Jésus le confirmera, vous le savez, devant Pilate: « Je suis roi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Et sur la croix, il y aura bien la mention « Jésus, roi des Juifs », mais ce roi n'aura d'autre couronne que la couronne d'épines, il n'aura d'autre trône que la croix. Jésus, en effet, est venu pour un royaume. Le pape Benoît XVI, dans son ouvrage intitulé « Jésus de Nazareth », écrira d'ailleurs, je le cite, que la proclamation du royaume est le noyau de la parole et de l'activité de Jésus. Fin de citation. Mais ce royaume est mystérieux. Il commence par la conversion du cœur de l'homme, par l'adhésion à Jésus dans la foi, pour vivre en disciple avec les exigences de la vie de disciple. Ce royaume aussi n'est pas éclatant ou immédiat, on ne peut pas dire il est là ou ici. Il procède par une croissance lente, comme une semence, un levain. Il se laisse voir, mais comme du bon grain au milieu de l'ivraie. Il trouve peu à peu son visage dans la communauté des disciples de Jésus, l'Église. Ce royaume, qui est avant tout mystérieux, presque intérieur, se manifeste alors par des signes, des œuvres, des fruits de l'Esprit-Saint. Il est le rayonnement du Christ ressuscité, il est le rayonnement de Jésus dans les saints et dans les baptisés qui se laissent transformer, transfigurer par la parole et par la grâce. Ce royaume, c'est en définitive Dieu le Père, qui se rend proche de nous par Jésus et qui agit par l'Esprit-Saint. Ce royaume, il est présent ici et maintenant, mais cette présence ne sera pleinement accomplie qu'à la fin des temps, où la puissance de la résurrection du Christ atteindra toutes choses pour inaugurer son royaume définitif de gloire qu'il remettra au Père. Frères et sœurs, Jésus est le roi que le Père a envoyé pour un royaume bien différent des royaumes terrestres. Ce royaume ne sera pleinement accompli qu'à la fin des temps, mais cet accomplissement passe par chacun et par chacune d'entre nous. La question essentielle de cette solennité doit donc être, me semble-t-il, au-delà des spéculations sur ce royaume, au-delà de l'imagination que nous pouvons projeter sur ce royaume, la question essentielle aujourd'hui est peut-être: qui règne finalement dans mon cœur aujourd'hui? Qui domine dans ma vie? Jésus est-il vraiment le Seigneur de mon existence? Cette question est essentielle parce que nous savons bien que la vie de disciple, la vie de baptisé, passe par un combat, une lutte que Jésus, lui, le premier, a vécue. Ce que le bon pasteur, le roi de gloire, a vécu, nous sommes appelés à le vivre aussi. Ce combat spirituel qui dure toute la vie et qui passe par des tentations matérielles et des tentations spirituelles qui encombrent notre cœur et empêchent le royaume d'y croître. Ce combat nous demande avant toute chose de ne pas laisser régner en nous un esprit mondain ou un esprit consumériste, matérialiste. Pour grandir, pour avoir un cœur libre, l'apôtre saint Paul nous dira d'ailleurs de prendre à notre tout ce qui s'appelle vertu. Ou en d'autres termes, il nous invitera à garder le sens de la mesure en toute chose, particulièrement vis-à-vis des choses matérielles. Le pape François, dans l'encyclique Laudato Si, parle, lui, de sobriété heureuse par rapport aux réalités matérielles auxquelles on pourrait certainement adjoindre aujourd'hui les réseaux sociaux et la dépendance numérique. Ce combat spirituel nous demande aussi d'être libres au plan spirituel, en ne faisant pas de Dieu une idole. Le royaume est la présence agissante de Jésus qui veut régner en nous par l'Esprit. Cette présence nous fait goûter, oui, déjà, les arts, les avances de l'héritage des cieux, par la douceur, la paix, la joie de l'amour de Dieu. Les auteurs de l'Église d'Orient aiment parler du royaume qui est au-dedans de nous, par l'amour de Dieu, cet amour divin qui donne le paradis à l'âme dès ici-bas. Mais cette joie de Dieu, cette grâce de Dieu que nous goûtons, ce royaume qui s'enracine en nous, ne doit pas nous replier sur nous-mêmes. Il ne s'agit pas de faire de Dieu une chose, une idole, notre petite consolation personnelle. Cette vie de Dieu nous est communiquée et c'est en même temps un appel à l'annoncer, à annoncer, à partager ce que nous avons reçu, à le mettre en œuvre concrètement par ce que nous appelons les œuvres de miséricorde et que l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle au moins à 4 reprises. Donner à manger à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, pensons à saint Martin, visiter les malades, ceux qui sont en prison. C'est quand le royaume s'accomplit en nous par ses fruits, par ses œuvres de miséricorde, que le royaume alors peut croître en nous, qu'il se manifeste dans nous. Alors seulement, oui, le royaume s'accomplit en nous, avant que nous le goûtions un jour pleinement dans la vie éternelle. Frères et sœurs, en ce dimanche, en cette solennité du Christ roi, prenons un instant de vrai silence. Chez nous, à l'écoute de notre radio, ou devant peut-être notre écran. Et interrogeons notre cœur en vérité. Qui règne vraiment dans notre cœur? Qui est vraiment le Seigneur de la vie?